Bonjour. Notre groupe œcuménique du Lot de Cahors, composé, comme indiqué dans le titre, des églises réformées, anglicanes, orthodoxes, a décidé ce mois de janvier 2017, de vous parler de quelque chose qui nous est cher, l'unité des chrétiens, et plus généralement de l'œcuménisme. Pourquoi avoir choisi en ce mois de janvier ce sujet ? Eh bien, tout simplement parce que tous les ans, du 18 au 25 janvier, a lieu ce qu'on appelle la semaine de l'unité, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le Conseil œcuménique choisit ou confie plutôt à un pays du monde le soin de préparer chaque année cette semaine de l'unité. Et le Conseil œcuménique a décidé cette année de confier cette mission aux églises d'Allemagne. Ces églises d'Allemagne ont choisi comme thème de réflexion, tiré de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le thème de la réconciliation en Christ et plus particulièrement de l'amour du Christ qui nous y presse. Alors de quoi s'agit-il très brièvement? Cette réconciliation en Christ, contenue dans cette lettre de saint Paul aux Corinthiens, dans laquelle saint Paul rappelle que la réconciliation est un don de Dieu, ou du moins l'idée de réconciliation, la faculté de réconciliation qui est donnée est un don de Dieu et nous en sommes les ambassadeurs. Donc voilà, cette année, les églises d'Allemagne nous invitent à réfléchir sur ce sujet. L'autre particularité de cette année 2017, c'est que nous allons célébrer le 31 octobre 2017 les 500 ans de la réforme luthérienne. On aura l'occasion d'en reparler au cours d'une prochaine émission. Alors cette particularité est importante. Cette réforme luthérienne, vous le savez, vous vous en souvenez, est née en 1517 de l'affichage par Martin Luther des 95 fameuses thèses sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg. Thèse qui, essentiellement, dénonçait beaucoup de choses, mais principalement le commerce des indulgences qui était pratiqué à cette époque-là, peut-être de manière un peu abusive à Rome, et qui prônait par ailleurs l'idée de la justification par la grâce seule, ce qui ne correspondait pas à l'époque aux idées des autres églises. Suite à cet affichage par Martin Luther et à cette querelle, on peut parler ainsi, s'en sont suivies de violentes persécutions, on ne va pas y revenir aujourd'hui, on les connaît malheureusement entre catholiques et protestants. Parmi les autres confessions chrétiennes, il y avait eu aussi d'autres divisions et d'autres persécutions. On se souvient qu'il y avait eu dans les premiers siècles des ruptures entre chrétiens à propos de la divinité du Christ. Ces ruptures, à l'époque, dans les premiers siècles, avaient donné naissance aux églises coptes, arméniennes, et ensuite aux diverses églises de rite oriental, maronites, chaldéennes, melkites, syriennes et autres. Il y avait eu également, cinq siècles plus tard, en 1054, une grande rupture avec nos frères orthodoxes, qui avait conduit à des excommunications réciproques, dont on se souvient aussi. Il y avait eu encore cinq siècles après, en 1531, cette fois-ci pour des raisons plus politiques que religieuses, la création par Henri VIII de l'Église anglicane, en rupture avec Rome. Et aujourd'hui encore, au-delà de ces grandes ruptures historiques, il y a des divisions qui perdurent au sein même de nos propres confessions. Ainsi, chez nos frères réformés, on voit qu'il y a de multiples ramifications d'églises issues de la réforme, baptistes, méthodistes, anabaptistes, évangéliques et autres, avec des divisions et des incompréhensions qui persistent, y compris chez nos frères réformés. Chez nos frères orthodoxes, on voit qu'il y a également de fréquentes incompréhensions et querelles, certes pas de même nature que les grandes déchirures de l'histoire, mais tout de même qui provoquent des difficultés. Même chez nous catholiques, il y a nous le savons, hélas, des déviances qui divisent et déchirent. Voilà, donc pour ces ruptures, pour ces divisions au sein des chrétiens qui devraient être unis. Alors, il ne faut pas être pessimiste. Il y a quand même eu d'immenses progrès depuis les schismes, les divisions, les déchirures des années 500, puis 1054, puis 1517. Heureusement, de nos jours, entre chrétiens, on ne se massacre plus, on ne se bat plus. Mais néanmoins, ces divisions qui persistent restent ce qu'on peut appeler, et ce qu'on a appelé dans le mouvement œcuménique, un scandale, le scandale de la division. Alors, ce scandale, comprenons-nous bien, ne réside pas dans la diversité des manières de comprendre le Christ et de vivre sa foi. Ceci est normal, la diversité des manières de pratiquer est même, pourrait-on dire, une richesse. On apprend des autres à mieux connaître le Christ, la diversité est une richesse. Donc le scandale ne réside pas dans cette diversité, on ne veut pas l'uniformité, loin de là. Il est normal que les chrétiens comprennent chacun à leur manière, dans leur langue et dans leur culture, le message du Christ. On voit qu'il y a de réelles différences selon les évangiles, par exemple, donc il n'y a pas de scandale à ce niveau. Non, le scandale réside non pas dans la diversité, mais dans ce qu'il faut bien appeler une trahison de l'évangile, par le refus de comprendre et de rencontrer l'autre, et plus encore par toutes les persécutions, excommunications réciproques, entretien de véritables haines entre chrétiens. C'est là où réside le scandale, dans cette trahison de l'évangile qu'on devrait appliquer de manière tout à fait différente. Le scandale de la division réside aussi dans la trahison du Christ lui-même, qui voulait l'unité de ses disciples. Dans l'évangile de Jean, Jean nous rapporte ce qu'a été l'une des dernières prières du Christ avant sa passion. Et je cite là l'évangile chapitre 17, verset 20-23 de Jean, en parlant du Christ. Et en relatant la prière que faisait le Christ disait « Je prie pour qu'il soit un ». Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et il insiste en disant pour qu'ils soient mes disciples, pour qu'ils soient parfaitement un, et que le monde reconnaisse ainsi que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Voilà, c'est dire toute l'importance que Jésus attachait à l'unité de ses disciples, c'est-à-dire à l'unité des chrétiens. L'unité que le Seigneur a donnée à son Église par sa parole n'est pas secondaire, donc elle est au centre, au cœur même de son message. Cette unité, ce n'est pas un attribut accessoire à la communauté des croyants. La communauté n'est plus communauté si elle est divisée par la haine, les conflits et les persécutions. Pire, elle devient même un contre-témoignage de l'amour du Père. Cette unité donnée par l'Esprit Saint ne consiste pas seulement dans le rassemblement de personnes, mais dans une unité constituée dans la diversité des langues, cultures et rites, par une même profession de foi, qu'est le credo, par les sacrements, par lesquels Dieu vient à la rencontre de chacun, et par une communion qu'on devrait pouvoir arriver à connaître autour d'une même table, avec un même pain et avec un même Père. Les fidèles sont un lorsque dans l'esprit ils sont de la communion du Fils et en lui dans la communion avec le Père. Cette unité est capitale. Jean-Paul II disait « Croire au Christ signifie vouloir l'unité. Vouloir l'unité signifie vouloir l'Église, une, sainte et catholique. Vouloir l'Église signifie vouloir la communion de grâce qui correspond au dessein de Dieu pour l'humanité. » Voilà, donc pour Jean-Paul II, cette unité aussi est capitale. Cette recherche de l'unité, ce travail pour arriver à une unité, c'est ça, l'œcuménisme. C'est précisément ça, la préoccupation de notre groupe œcuménique, vouloir arriver encore et toujours à cette unité parfaite dans la diversité que chaque confession apporte à la meilleure connaissance de la parole du Christ. Voilà cette unité que nous recherchons et pour laquelle nous vous invitons à prier. C'est ça l'œcuménisme. L'œcuménisme, ce n'est pas seulement une idée généreuse. Ce doit être une vraie prise de conscience de notre responsabilité de chrétien. Nous avons une seule foi, un seul Dieu, un seul baptême, un seul Esprit Saint, une même prière qui est le Notre Père. Nous nous devons de porter au monde ce témoignage d'unité. Fidèle, ce témoignage d'unité qui est fidèle à la dernière prière du Christ dont je vous ai parlé précédemment. Négliger cette unité aujourd'hui, c'est ni plus ni moins trahir le Christ et trahir son message et trahir sa demande. L'œcuménisme, c'est important. L'œcuménisme, c'est pas l'interreligieux. Beaucoup de personnes confondent œcuménisme et interreligieux. L'interreligieux, c'est le dialogue entre les grandes religions juives, chrétiennes, musulmanes et pensées bouddhistes, hindouistes. C'est ce qu'on avait vu à Assise avec le pape Jean-Paul II, qui s'était entouré des représentants des grandes religions. L'interreligieux, c'est ce dialogue. C'est très bien, l'interreligieux, c'est capital, c'est fondamental, c'est un dialogue entre religions, c'est-à-dire entre familles. L'œcuménisme, c'est d'une autre nature, c'est une communion dans l'esprit entre chrétiens, c'est-à-dire dans notre propre famille, dans cette propre famille qui est la famille en Christ, dans l'amour trinitaire du Père. Voilà donc l'interreligieux, dialogue entre familles, entre religions, L'œcuménisme, c'est une communion intrafamiliale au sein de notre famille. L'œcuménisme a permis de faire d'immenses progrès vers l'unité dans la diversité. Et il faut s'en réjouir. On a aujourd'hui encore du travail à faire, mais il faut se réjouir du travail accompli. Avec, par exemple, nos amis réformés, nous sommes passés du conflit que j'évoquais tout à l'heure, à la suite de l'affichage des thèses de Martin Luther et des guerres, des massacres entre catholiques et protestants, nous sommes passés de ce conflit aujourd'hui à une véritable communion. Il y a d'ailleurs un ouvrage qui a été issu de ce dialogue luthéro-catholique qui s'appelle « Du conflit à la communion », qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on a fait d'énormes progrès dans notre travail œcuménique. Avec nos amis orthodoxes, que de progrès également accomplis depuis le massacre de Constantinople, où là encore on est passé d'une guerre, une véritable guerre, de massacre, de pillage, à une, non seulement un dialogue, mais à une fraternité, une communion. L'œcuménisme est arrivé grâce à de grands noms comme l'abbé Couturier, grâce à des groupes des dombes, c'est-à-dire des personnes qui se sont impliquées, des laïcs religieux qui se sont impliqués dans ce travail œcuménique. On peut dire que nous sommes arrivés à rétablir la paix au sein de la famille du Christ, la famille chrétienne. Alors, bien sûr que le but n'est pas atteint, et bien sûr que des obstacles subsistent. On a encore des divergences, il faut un peu grincer des dents au niveau des sacrements, au niveau de l'Eucharistie, on n'est toujours pas réunis autour de la même table, je l'évoquais tout à l'heure. Au niveau également des ministères et de la gouvernance dans l'Église, où là aussi on est en divergence encore profonde. Voilà, ce travail qui reste à accomplir. Alors, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, il faut prier. Il faut prier pour l'unité des chrétiens. Et ça rejoint notre semaine de l'unité, de prière pour l'unité des chrétiens. Prier, c'est important parce que, bien sûr, seul, on n'arrivera pas à rétablir la communion parfaite au sein de la famille chrétienne. Mais c'est avec l'aide de Dieu et de l'Esprit-Saint qu'on y arrivera. Donc il est important de prier. Prier pour parvenir à la levée des derniers obstacles. Et à cette occasion, nous aurons le 23 janvier, le lundi 23 janvier à 18h30 au Sacré-Cœur à Cahors, au cours de cette semaine de l'unité, une prière, une célébration, plus qu'une prière, une célébration œcuménique qui sera présidée par le Père Jean Vézel pour l'Église orthodoxe. La prédication sera assurée par notre ami Erizo, pasteur protestant. Et parmi les concélébrants, il y aura Monseigneur Camiade, pour l'Église catholique, et June Hutchinson pour l'Église anglicane. Voilà, donc prier pour parvenir à cette levée des derniers obstacles qui nous parviendront de reconstituer la famille chrétienne. Et puis, l'autre façon d'avancer en œcuménisme, c'est de travailler ensemble, œuvrer en commun en faveur du monde. Aujourd'hui, on a un chantier immense, un chantier humain immense, qui est l'aide que nous devons apporter ensemble aux migrants. Nous le faisons déjà avec la CIMAD sur une ville comme Cahors. Nous travaillons en lien avec tous nos frères. Et ça aussi, c'est une façon de travailler à l'œcuménisme. Voilà, donc je vous invite à cette prière dans la semaine du 18 au 25 janvier et à cette célébration à Cahors, au Sacré-Cœur, le lundi 23 janvier à 18h30. Voilà, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Je remercie Thibaut Alves qui est à la réalisation technique. Je vous remercie tous de votre écoute. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour 2017 et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission œcuménique.